Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, 19h01, c'est donc Soft Power, magazine des internets en direct, jusqu'à 20h de la Maison de la Radio. Alors vous nous avez écrit, contacté aussi, vous avez tweeté cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Vous nous avez dit, par exemple, après l'émission récente sur la nouvelle diplomatie numérique française du Quai d'Orsay, que c'était, je cite, un moyen pour diminuer les postes de diplomates à l'étranger et de diminuer les coûts. En gros, l'informatique serait, et le numérique serait le cache-misère des réductions budgétaires et autres abominables RGPP. Réponse du porte-parole du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères français, Romain Nadal, qui était notre invité et auquel nous avons signalé vos remarques. Le recours croissant du Quai d'Orsay aux outils numériques doit être vu avant tout comme une illustration de l'effort permanent de la diplomatie française de s'adapter à son époque. Le porte-parole du Quai d'Orsay poursuit, le recours au numérique, loin d'affaiblir notre action, contribue au rayonnement de la France en touchant de nouveaux publics et en renvoyant une image de modernité. Voilà, c'est dit. N'hésitez pas à nous écrire, à commenter par la poste pour nous écrire à Radio France, France Culture, Soft Power, sur la page Facebook de l'émission, ou encore sur Twitter, au mot-clé Soft Power. Au sommaire ce soir de Soft Power, le magazine des internets de France Culture, à la révolution de la télévision arabe. L'époque a bien changé, où les télévisions arabes étaient nationales, nationalistes même, publiques et hertziennes. Elles sont aujourd'hui plus régionales, parfois pan-arabes, souvent satellitaires. Les révolutions arabes sont passées par là et ont changé la donne. Avec nous ce soir, pour en parler comme invité sur ce sujet, Mazen Hayek, porte-parole du groupe NBC, un groupe leader de la télévision arabe par satellite dans 21 pays avec 18 chaînes, dont NBC One, NBC 2, la chaîne d'information aussi Al Arabiya, principal concurrent d'Al Jazeera, et puis des chaînes spécialisées, sportives, cinéma et même une sur Bollywood. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
Les révolutions des médias dans le monde arabe, c'est le titre de cette émission. En quelques dates clés et en quelques mots, quelles seraient, Mazen Hayek, les grandes étapes et mutations récentes de la télévision arabe ?
Rapidement, je dirais, les dates clés sont en 1991, quand la prolifération du satellite a commencé à partir. On avait lancé NBC One depuis Londres. Ensuite, en 1996, avec la création d'Al Jazeera au Qatar, suivi de l'Arabiya en 2003. Je dirais ensuite la période du pré before, avant le printemps arabe. Donc maintenant, je dirais, on est à la recherche du printemps perdu médiatiquement et politiquement dans notre région.
À la recherche du printemps perdu, on pourrait dire que ce sera le sujet de cette émission ce soir. Dans un instant, toujours au sommaire de Soft Power, dans un instant, l'actualité du numérique et des médias avec Agnès Chevaux. Avec vous, Agnès, on évoquera ce soir.
Alors, trois mots qui ont marqué l'actualité médiatique cette semaine. Djihad, Ebola et rumeurs. Cherchez l'erreur, Frédéric.
Cherchons l'erreur. Et puis, toujours au sommaire de cette émission ce soir, vers 19h15, l'alphabet numérique, comme chaque semaine, nouvelle séquence de France Culture, Soft Power. Ce soir, nous décrypterons le Wiki avec Rémi Matisse, ancien président de Wikimedia France, la fondation qui s'occupe notamment d'éditer Wikipédia. C'est quoi un Wiki, Rémi Matisse ?
Bonsoir Frédéric. Un wiki, c'est un type de site internet, un système de gestion de contenu qui permet que des sites internet soient modifiés de manière très très importante par un très grand nombre de contributeurs.
Et de manière collaborative et coopérative.
Voilà, et permet de faire travailler ensemble des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes.
Le wiki, on en parle tout à l'heure dans Soft Power. Nous serons d'ailleurs aussi en direct avec le nouveau président qui a été élu ce week-end pour vous remplacer, Rémi Matisse. On l'aura avec nous par téléphone, Christophe Henner. C'est Soft Power, magazine des internets de France Culture, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur Instagram, Vine, Facebook et sur France Culture en direct.
Soft Power, le magazine des internets de France Culture. Frédéric Martel avec Agnès Chevaux.
Soft Power, pour commencer cette émission comme chaque dimanche, on commence par l'actualité de la semaine dans le secteur des médias, des industries créatives et du numérique. Agnès Chevaux a choisi de parler ce soir du djihad, d'Ebola et des rumeurs, autant de sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine.
Oui Frédéric, parce qu'il n'y a pas une couverture sans que l'on nous parle de ces jeunes partis faire le djihad. Cette semaine encore en une du Nouvel Observateur, la confession exclusive de Léa, 15 ans, recrutée par les djihadistes, à qui l'on demandait de faire des attentats en France. Alors au départ, il s'agit d'une simple histoire de mal-être laissée sur sa page Facebook. Et en quelques mois, cette adolescente choyée qui a grandi dans une belle maison de province au sein d'une famille française soudée, aisée, choyée, s'est laissée entraîner via Internet à coups de vidéos d'enfants gazés en Syrie, du film 19HHH pour Histoire de l'Humanité, de la série ésotérique The Sign, les signes de la fin des temps. Elle s'est laissée convaincre qu'elle était élue pour accomplir une mission. Donc des Français partis faire le djihad en Syrie ou en Libye, j'en ai trouvé des dizaines sur Facebook, confie le blogueur Jean-Marc Manac sur Arrêt sur Image. Rien de plus simple selon lui, il suffit d'utiliser Graph Search, le nouveau moteur de recherche de Facebook, et dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'Union européenne demande à Google, Twitter, Facebook de prendre des mesures contre la propagande djihadiste en ligne. Alors c'était le sens d'un dîner mercredi dernier à Luxembourg, entre la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Cecilia Malmström, plusieurs ministres européens de l'intérieur et des représentants des géants du net. Twitter et Facebook ferment déjà des comptes affiliés aux mouvements terroristes et extrémistes lorsqu'ils font des appels à la violence, tandis que Google, d'ailleurs, ne traîne pas pour faire disparaître de YouTube les vidéos les plus litigieuses. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'algorithme pour définir ce qu'est un djihadiste. Et si les profils sont régulièrement effacés, sans qu'on sache exactement pourquoi, d'ailleurs, si c'est à la demande des autorités ou suite à des signalements de particuliers, les faux comptes se multiplient aussitôt. Alors que faire de plus ? Au-delà d'une volonté de coopération affichée entre les géants du web et les différents gouvernements, notons qu'aucune mesure spécifique n'a été discutée. Ça reste donc une affaire à suivre de près.
Une affaire à suivre. Mazen Hayek, vous êtes le porte-parole du groupe NBC, groupe pan-arabe, dont le propriétaire est saoudien. Vous êtes, le groupe est basé à Dubaï et à des studios un peu partout dans le monde arabe, à Beyrouth, au Caire, ainsi que dans d'autres pays musulmans. Comment vous réagissez à ce débat, cette question des, à la fois des djihadistes qui éventuellement reviennent dans des pays comme la France, mais aussi la visibilité de leurs actions sur les réseaux sociaux?
Premièrement, je dirais qu'on a travaillé comme groupe médiatique à les montrer comme des criminels, comme ils le sont.
Et en revanche, vous ne montrez pas les vidéos, notamment par exemple de personnes décapitées ou...
Absolument pas. On montre ce que les nouvelles nous demandent de montrer. Mais pour nous, c'est des criminels. Ce ne sont pas des héros, mais plutôt des zéros. Et on vit dans
des
une région...
Des zéros avec un Z.
Un Z.
Et non pas avec un H.
Absolument. Et qu'on vit dans une région où il y a 180 millions de personnes en dessous de l'âge de 25 ans. On a un grand challenge
dans le monde arabe.
Dans le monde arabe, je parle de la région MENA.
Et donc c'est-à-dire Moyen-Orient,
North Africa, donc Afrique du Nord. Je dirais qu'on a un challenge très grand de travailler d'une façon collaborative et efficace pour que les gens dans notre région consomment le contenu professionnel et concluant et non celui des djihadistes et des terroristes, et de coupler défense, diplomatie, développement et démocratie pour créer de l'espoir dans notre région qui a besoin d'espoir.
Vous pensez qu'il y a une stratégie médiatique, notamment de l'État islamique, entre guillemets, Daesh ?
Je dirais, ce n'est ni un État, comme on comprend l'État de droit, et ce n'est surtout pas islamique, parce qu'ils n'ont
ça,
rien de
l'islam.
Ça, c'est
ce que dit François Hollande aussi,
donc,
président français.
Ils n'ont rien de l'État et rien de l'islam. Mais je reviens à votre question pour vous dire qu'on connaît bien depuis l'ascension d'Al-Qaïda que les médias et les médias numériques font partie prenante de l'arsenal des groupes terroristes.
Et donc il y a une stratégie médiatique.
Il y a une stratégie médiatique très très bien développée. Et c'est là où maintenant la campagne de la coalition qui prend forme en Syrie et en Irak doit vraiment travailler d'une façon collaborative pour inclure non seulement l'aspect militaire et la défense, mais aussi la diplomatie, le développement, la démocratie et la création d'emplois et les médias.
Autre sujet ce soir dans Soft Power, Ebola, cap des 4000 morts. Le cap des 4000 morts a été franchi selon l'OMS. La peur gagne, Agnès Chauveau, les médias occidentaux.
Oui, et comme le soulignait le Washington Post, la peur peut se répandre encore plus vite que le virus. Les premiers cas de contagion hors d'Afrique et le décès d'un patient sur le sol des États-Unis ont donné une dimension planétaire à l'angoisse. Donc on a eu des fausses alertes, des rumeurs, des hospitalisations de précaution qui se sont multipliées. Les tabloïds américains s'en sont donnés à cœur joie. Le Daily News titre « Ebola, peur sur la ville ». Le New York Post titre « Ebola, un homme hospitalisé en ville ». Mais aussi des hebdos plus classiques comme Time qui titre « Chasing Ebola » ou Bloomberg Business Week avec « Ebola is coming ».
Si le virus Ebola devait arriver en France, il y a de grandes chances pour qu'il passe par ses portes. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Paris. Ce vol ce matin, en provenance de Conakry en Guinée, objet de toutes les suspicions.
Dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, ça devient effrayant. On doit prendre sur nous.
Alors on l'entend, c'est une psychose que l'on retrouve aussi en France. Jeudi soir, TF1 et France 2 mettent en une de leurs 20h une fausse alerte à Cergy Pontoise. Mardi, toutes les chaînes relaient un début de psychose à propos d'un enfant de retour de Guinée scolarisé dans un établissement de Boulogne-Billancourt. Mercredi, M6 ouvre son JT par la manifestation à Madrid des défenseurs des animaux protestant contre l'euthanasie du chien de l'aide-soignante contaminée. Les médias en font-ils trop au regard d'autres maladies, on le sait, comme le paludisme ou le sida qui décime davantage l'Afrique. Toujours est-il que selon les spécialistes, ce ton alarmiste participe involontairement à l'extension de l'épidémie. Parce qu'il est vrai que se barricader sans tenter d'endiguer le virus, on voit bien que l'irrationalité n'est peut-être pas seulement où l'on croit dans la lutte contre Ebola.
Agnès Chevaux pour l'actualité. Dernière actualité ce soir, la nomination ce week-end de nouveau président de Wikimedia, la fondation qui chapeaute Wikipédia. Il s'appelle Christophe Henner, on l'a dit en début d'émission. Et il est avec nous par téléphone dans un instant. Avec nous aussi notre invité Rémi Mathis, ancien président de Wikimedia France. Wikimedia, c'est la fondation qui chapeaute Wikipédia, mais on ne peut pas le dire comme ça parce que Wikipédia est totalement indépendant, c'est ça?
Voilà, ça dépend ce qu'on entend par chapeaute. Wikipédia repose sur une communauté de contributeurs qui, sur le fond, sont complètement indépendants. Et vous avez des structures de deux types. La Wikimedia Foundation internationale, qui est l'hébergeur et qui donc s'occupe des questions techniques et des questions juridiques. Et vous avez ensuite un système de chapters, de chapitres dans chacun des pays qui, là, s'occupe de structurer la communauté, de nouer des partenariats, d'expliquer comment ça fonctionne, de faire de la communication. Et donc, c'est Wikimedia France en France.
Alors, vous étiez le président depuis combien d'années, d'ailleurs ?
J'étais président depuis 3 années, sachant que c'est des structures qui évoluent extrêmement vite, puisque Wikimedia France avait été fondée en 2004 et que, bien évidemment, que Wikipédia en 2004 et en 2014 n'a absolument plus rien à voir.
Alors, avec nous donc Christophe Henner, le nouveau président qui a été élu ce week-end. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes par téléphone parce que vous devez rentrer en province. Vous êtes d'ailleurs en train de rentrer chez vous. Bravo pour votre élection qui a eu lieu à Paris hier, à la tête de la fondation Wikimedia France. Ça se passe d'ailleurs comment, une élection de ce type? Qui est-ce qui vote?
En fait, Wikimedia France, c'est une association de droit français. Donc, comme toutes les associations, il y a des membres qui se réunissent en assemblée générale et qui élisent un conseil d'administration. Et donc là, cette année, parmi les 12 personnes qui forment le conseil d'administration, j'ai été élu président du conseil d'administration.
Quelles sont vos priorités? Vous avez un programme?
C'est plutôt un programme de l'association dans un premier temps. En fait, comme le disait Rémi, l'association, même si elle a 10 ans, on est relativement jeune pour une association. Donc on est en train de finir de bien se structurer, de bien s'organiser, puisqu'on a grandi, on a grossi très vite. Les projets Wikimedia ont également grandi très très vite. Et donc là, on travaille vraiment à mieux s'organiser pour mieux soutenir les contributeurs des projets multimédia pour leur fournir plus de ressources, qu'ils puissent faire ça dans de meilleures conditions.
Les dossiers, si vous aviez 2-3 dossiers clés du moment pour Wikipédia à lancer, à traiter, quels seraient-ils ?
Alors, le gros dossier que l'on a depuis quelques mois maintenant, c'est de travailler sur l'amélioration de l'interface et du travail avec les contributeurs pour qu'il soit plus facile, en fait, pour les gens de contribuer au projet. Donc, il y a plein de projets en parallèle sur ça pour justement que la contribution soit beaucoup plus facile pour tout le monde.
Christophe Henner, ben bravo, merci. On vous laisse prendre votre avion, je crois, nouveau président de Wikimedia France. L'ancien président, votre prédécesseur immédiat, est avec nous aussi ce soir. Comment vous voyez les sujets du moment, Agnès Chevaux notamment?
Alors justement, la fondation, dans les sujets d'actualité, la fondation Wikimedia a déclaré, enfin certains de ses membres ont déclaré qu'ils étaient opposés à la disposition du droit à l'oubli qui a été imposé, vous le savez, par Google. Alors c'est vrai que cette disposition est quelque chose qui, d'une certaine façon, pénalise Wikipédia, puisque des liens vont être supprimés de fait sans que, du coup, Wikipédia ait la possibilité d'intervenir. Et néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette disposition est aussi respecte le droit des individus ?
Alors, c'est une question qui est effectivement très compliquée, et la prise de position à laquelle vous faites référence, c'est celle de Jimmy Wales, donc qui est le fondateur de Wikipédia, qui n'a plus de rôle officiel au sein de Wikimedia
un rôle moral.
Actuellement. Voilà, c'est un grand ancêtre, bien qu'ils soient encore jeunes.
Le voilà habillé pour les vieux.
Non, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et il se trouve que c'est en effet des vraies questions qui se posent, parce qu'on se retrouve avec finalement la liberté, ce droit à l'oubli qui est opposé à la liberté de l'information, et une certaine liberté de la presse, en fait une capacité à réussir à avoir des informations sur des sujets extrêmement divers tels qu'on trouve sur Wikipédia. Et c'est d'autant plus compliqué sur Wikipédia que justement Wikipédia n'invente rien. Sur Wikipédia, c'est uniquement des synthèses qui vont reprendre des choses qui ont été publiées par des journalistes, par des universitaires et ainsi de suite. Et donc finalement, si une information pose problème dans Wikipédia, ça veut dire qu'elle posait problème à un autre endroit et qu'on se retrouve face à une censure d'une ampleur qui n'est pas forcément très agréable à voir dans des pays développés.
Mais vous avez l'air de prendre un peu de distance par rapport à ces déclarations. Ça veut dire qu'il y a des débats, des discussions au sein de Wikimédia sur cette disposition particulière.
C'est surtout qu'on est citoyen avant d'être wikipédien et qu'on se rend compte que c'est des véritables enjeux qui existent et que la question n'est absolument pas simple. Après, la plupart des wikipédiens, en tout cas c'est mon cas, même si Wikimedia France n'a jamais pris une position officielle, on a tendance à dire qu'il faut faire extrêmement attention à ce qui est fait et que ce droit à l'oubli est typiquement une fausse bonne idée qui peut causer qui entraîne des risques très très importants. Il faudra voir comment c'est mis en œuvre.
Rémi Matisse était président de Wikimedia France et redevient donc un simple wikipédien, pour prendre votre expression. Dans un instant, on parle justement, ce sera dans l'alphabet numérique, d'un mot, le wiki. C'est un lien évident avec Wikimedia et avec Wikipédia. En attendant, le groupe franco-finlandais The Do, on le dit en français je crois, on peut dire Do car c'est un groupe en partie français, ça renvoie à la note Do justement, Keep Your Lips Sealed, ça, par contre c'est de l'anglais. Culture 19h20 The Do, hein. Keep Your Lips Sealed, cet extrait de leur dernier album Check Shook Chicken.
Soft Power, l'alphabet numérique.
Comme chaque semaine dans Soft Power, l'alphabet numérique, une nouvelle séquence qui explique, décrypte le web autour de ses expressions, ses mots, ses tendances, mais aussi de ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons le wiki avec Rémi Matisse, un wikipédien, ancien responsable, ancien président de Wikimedia, la fondation qui édite notamment Wikipédia. Alors peut-être pour commencer très simplement, une définition à la fois du mot et de la chose. Rémi Matisse, c'est quoi un wiki ?
Un wiki, c'est un logiciel de gestion de contenu, c'est-à-dire un type de site internet qui permet donc de créer des sites internet collaboratifs où un très grand nombre de personnes vont pouvoir intervenir en même temps pour créer du contenu au fur et à mesure.
Donc collectif, coopératif, en temps réel ?
En temps réel, sans avoir forcément réfléchi à un plan a priori, c'est-à-dire des gens qui vont véritablement faire émerger une structure au fur et à mesure en collaborant entre eux, et un site internet qui du coup n'appartient réellement à personne, mais qui est issu d'une communauté sans qu'il y ait du tout une structuration top-down.
C'est-à-dire qui part du haut et qui viendrait nourrir la société, mais au contraire, ça part du bas et ça monte. Mais voilà. Qui a eu cette idée, qui l'a inventée et pourquoi finalement l'avoir inventée ?
Alors, ça a été inventé au milieu des années 1990. En 94, les premiers essais ont eu lieu et ça a été implémenté en 95 par un Américain qui s'appelle Ward Cunningham, et qui est un informaticien et qui avait besoin que des gens puissent intervenir en lien avec un site internet qui montait, qui était en fait un site qui partageait des patrons de logiciels pour donner des exemples de bonnes pratiques. Et il s'est dit, vu que ça repose sur une communauté, ça serait bien que les gens puissent directement intervenir et proposer directement leur modèle. Donc c'est WikiWikiWeb qui a été lancé en mars 1995. Et pour ça, Ward Cunningham a choisi un mot qui est hawaïen. Wiki en hawaïen veut dire vite, rapide. Et donc, vous saurez que la navette de l'aéroport de Honolulu s'appelle la Wiki Wiki Shuttle et que Ward Cunningham était allé en vacances à Hawaï. Et donc, ça lui a beaucoup plu de faire ça. Avec une autre originalité du wiki par rapport à un autre site, c'est qu'il y a un système de liens entre les pages, de liens internes, pour justement créer toute cette structure arborescente. Et donc, on n'a pas besoin de passer par une URL de site internet normal, mais on lit entre les pages.
Comment ça marche justement techniquement quand on a un grand nombre, parfois des milliers hein, sur Wikipédia, de personnes qui en même temps ont accès aux mots, etc. Comment c'est structuré techniquement ?
Alors, quand on a des milliers de personnes qui interviennent, ça ne pose pas véritablement de problèmes techniques, mais ça va poser des problèmes surtout de gestion de la communauté. Et donc, à partir du moment où cette communauté existe, elle va souvent elle-même se donner des règles pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Alors, l'exemple le plus frappant est bien sûr celui de Wikipédia, où cette communauté va finalement se structurer, nommer des administrateurs qui auront certains droits par rapport aux autres, surtout certains outils. Il y aura des règles qui vont émerger suite à des votes. Et finalement, il y a toute une société qui se remet en place avec une capacité à se débarrasser des personnes qui ne jouent pas le jeu, à faire émerger des règles simples.
Donc des règles d'édition pour éviter notamment le vandalisme, les polémiques, les questions qui ne manquent pas de se poser, en particulier dans une encyclopédie. Agnès Chevaux.
On entend bien votre propos. Il y a un aspect communautaire, collaboratif dans le wiki et encore plus peut-être dans le Wikipédia au sein de l'encyclopédie. Mais il y a aussi des débats, semble-t-il. Alors, ces débats qui se déroulent dans un bistrot, apparemment, si j'en reprends les termes. Et dans ces débats, on sent qu'il y a quand même aussi des batailles. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord, ce qui me paraît logique. Et apparemment, il y a quand même une bataille qui fait rage ces derniers temps, qui se situe entre ce qu'on appelle les inclusionnistes, ceux qui veulent créer le plus de pages possible, et les suppressionnistes, c'est-à-dire ceux qui sont partisans d'une approche encyclopédique plus restrictive. Alors comment ces débats finalement genre sont-ils arbitrés au sein de Wikipédia ?
Alors c'est justement un des modes de fonctionnement qui est très intéressant, c'est que à partir du moment où on a toute une société, toute une communauté, il faut qu'elle discute. Et donc ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on est un simple lecteur de ce wiki et de Wikipédia, c'est que le nombre de pages méta, le nombre de pages par derrière
beaucoup
pour
plus
faire fonctionner cette communauté est 4 à 5 fois plus importante que le nombre des articles eux-mêmes. À côté de chaque article, il y a une page de discussion, et il y a en plus des lieux entièrement dédiés au débat, comme le bistrot dont vous parliez. En ce qui concerne inclusionniste et suppressionniste, plus qu'une bataille, c'est vraiment deux manières de considérer ce qu'est une encyclopédie, et finalement peut-être la marque du passage du modèle de l'encyclopédie traditionnelle fondée sur une sélection a priori d'un certain nombre d'articles qui semblent avoir un intérêt intellectuel, avoir une légitimité, et un modèle finalement plus fondé sur Internet, où on part du principe que à chaque fois qu'il y a une connaissance qui existe sur un sujet, traitons ce sujet-là. Et donc finalement, il y a deux manière de voir les choses, et il faut discuter. Et
qui gagne
Les inclusionnistes ont tendance à s'imposer au fur et à mesure, et on voit des personnes, même moi qui étais assez suppressionniste en 2005, deviens inclusionniste parce que c'est vraiment comprendre le changement de ce qu'est une encyclopédie. Quoi.
Et ça nous semble de plus en plus de contenu, et non pas...
Oui, c'est ça, et que en particulier, y compris sur un savoir très, très légitime, très, très ancien, quand vous avez des dictionnaires hyper spécialisés, pourquoi est-ce que ça ne serait pas dans Wikipédia systématiquement ?
Donc l'abondance plutôt que l'élitisme étroit et
les deux.
Alors il y a d'autres wikis, hein. Wikipédia n'est pas le seul. D'abord il y en a qui sont aussi gérés par la fondation Wikimedia, notamment les Wikidictionnaires et puis tout un tas d'autres sites qui dépendent de vous. Et puis d'autres wikis avec des systèmes différents ou plus open.
Oui, il y a beaucoup de choses qui existent. Alors, liées à Wikipédia, il y a en effet tous les projets frères dont vous parliez, Wiktionnaire, Wikisource, Wikimedia Commons, et ainsi de suite. Il faut être conscient aussi que c'est quelque chose qui existe au niveau mondial. Donc, il y a 300 Wikipédia, mais il y a aussi des pays où ça ne sera pas Wikipédia. Où vous avez, par exemple en Chine, Baidu Baike, qui est l'équivalent de Wikipédia, mais qui n'est pas sous licence libre, qui est entièrement fermé, qui appartient à une entreprise.
Et que vous ne gérez pas depuis la France.
Absolument pas, là c'est une entreprise chinoise vraiment à part. Et ensuite, il faut également être conscient que donc un wiki, c'est ni plus ni moins qu'une forme, qu'un site de type internet, et que donc ça peut être utile pour beaucoup de choses, et en particulier pour gérer de la connaissance, pour faire fonctionner un intranet dans une entreprise. Et ainsi de suite. Moi, j'étais en bibliothèque universitaire, je dirigeais une BU, on avait ça en interne. Il y a des sites qui proposent des wikis gratuits pour qu'on puisse faire un wiki au sein d'une communauté de 5 personnes, 100 personnes. Et en particulier, on parlait dans la première partie de l'émission de Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Il gagne lui-même sa vie actuellement en tant que chef d'entreprise d'une plateforme qui s'appelle Wikia et qui propose ce type de wiki.
Il y a aussi des cartes, hein, OpenStreetMap.
Exactement.
Donc en entreprise, etc., vous l'avez dit. Donc c'est au fond quelque chose qui s'est développé bien au-delà des encyclopédies ou des outils initiaux qui étaient les plus apparemment appropriés au wiki.
C'est un des phénomènes très très importants, à mon avis, de l'Internet des années 2000, puisque justement Wikipédia se met à être très connu à partir de 2004, que le mot commence à entrer dans les dictionnaires entre 2007 et 2010, et que maintenant le wiki fait complètement partie de l'Internet actuel.
C'est quoi Qu'est-ce qu'un wiki ? Avec Rémi Matisse, ancien président de Wikimedia, qui gère le site, notamment la fondation qui gère, qui édite Wikipédia. Merci. Dans un instant, on parle des médias arabes et de leur révolution avec Mazen Hayek, le porte-parole du groupe saoudien Pan-Arabe, une dizaine, presque une vingtaine maintenant, de chaînes de télévision arabes, le groupe NBC.
كم وسعدني كلها يدني للشباب
حبك عاشق لعبك والبي حبك قلبه بقربك هيدي حربك لا تتلبك قوي قلبك شوت خلي الملعب مثل بلادك حدد أعيادك وأعيادك جدد من هلأ ميلادك قوي قلبك شوت wake up I feel alive this is your night just sing now yalla
France Culture 19h31, Soft Power en direct jusqu'à 20h avec nous Mazen Hayek. Rebonsoir, porte-parole du groupe MBC.
Bonsoir.
On écoutait, quel est ce morceau qu'on écoute à l'instant ?
On entendait Mohamed Asaf, le winner, le victorieux de Arab Idol saison 2 l'année dernière. C'est un jeune palestinien plein de talent, d'ambition. La chanson, il avait faite pour le congrès du FIFA au Brésil.
Asaf 360, un titre dont les bénéfices d'ailleurs reviennent à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. UNRWA. Mazen Hayek, vous êtes Libanais, vous vivez à Dubaï pour ce groupe leader de la télévision arabe par satellite dans 21 pays, plus de 18 chaînes. Votre propriétaire, je l'ai dit, est à Riyad, en Arabie Saoudite, votre siège à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, d'ailleurs à la Media City, un peu dans le désert à Dubaï, et vos studios à Beyrouth, au Caire, un peu partout, dans le monde arabe. Ça représente quoi, MBC, en termes de chaînes et en termes aussi de visibilité dans le monde arabe ?
MBC, pour le monde arabe, si vous voulez, c'est le 22e pays virtuel sur la carte que tout le monde aime. Pas de guerre entre MBC et d'autres pays arabes.
Ça, on y reviendra.
Mais... OK. Donc, MBC, c'est la source d'infos, d'entertainment, de sport, de programmes,
de films. Et même de films de Bollywood.
De Bollywood et de Hollywood, par excellence. Créé en 1991 à Londres, MBC One, qui est l'équivalent de la TF1 en France ou de la France 2. Donc
une chaîne grand public.
Absolument généraliste, qui est devenue maintenant 18 chaînes. Pour l'audience arabe, c'est le contenu local, c'est le sport, c'est les films, c'est aussi les grands formats. Donc nous emmenons à l'audience depuis Qui veut gagner des millions jusqu'à The Voice. Donc on a Arab Idol, on a Arab's Got Talent, on a The Voice. Et je suis heureux de vous annoncer qu'on annonce cette semaine en exclusivité chez vous ce soir X Factor et on aura également Project Runway.
Donc ça c'est deux formats que vous importez dans le monde arabe. Project Runway en français, je crois qu'on dit projet haute couture, hein, c'est comme la chanson, mais ils se mettent à essayer de voir celui qui coud et qui fait le mieux les robes et les tissus, etc.
Exactement. Donc à la télé, on est une force incontournable en entertainment, mais aussi sur les, comme vous le savez, Frédéric, sur les new media, donc sur l'espace digital, avec notre VOD plateforme qui est Shahed.net. Et on va lancer bientôt Shahed Plus, qui est un premium, produit premium pour de nouveaux films, etc.
Et pour aussi rapporter de l'argent.
Et pour aussi rapporter un peu d'argent, parce que la monétisation, la rentabilité du produit, du contenu sur le sphère Internet est une grande question, et pour nous, et pour pas mal d'autres joueurs dans la région.
Donc, grosso modo, un groupe qui a des chaînes grand public, des chaînes spécialisées sur Hollywood, sur Bollywood, des chaînes pour les enfants, des chaînes... Même, je crois, pour les femmes, comment dire, qui passent du temps à la maison, les Desperate Housewives, c'est NBC 4, je crois.
Des films Desperate action. Et non Desperate, les deux, on voilà, est toutes les Housewives. L'espoir.
Et puis vous êtes, et donc c'est un des sujets peut-être par lequel on va commencer, une chaîne aussi politique, enfin un groupe aussi politique, avec une chaîne qui est Al Arabia, une seconde qui s'appelle Al Ada, qui est moins connue, mais c'est deux grandes chaînes d'information pan-arabe, principal concurrent, en l'occurrence, de Al Jazeera.
Oui, Al Arabiya a été créée en 2003 et ensuite on vient de créer en 2012 notre chaîne Al Hadath. Et donc c'est deux chaînes de nouvelles en continu. Pour nous, Al Arabiya, c'est news, not views. Donc c'est plus les nouvelles en continu, en suivi, et moins d'opinions et moins de d'avis et de gens qui donnent leurs avis. Donc news, not views sur Arabiya. Al Hadath se charge de ce qu'on appelle les developing stories, donc les dossiers clés qu'on traite séparément de Al Arabiya.
Et ces deux chaînes de télévision, ces deux chaînes d'information, on a l'impression qu'elles se sont aussi construites en opposition avec une autre chaîne très connue dans le monde arabe, qui est Al Jazeera. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces deux modèles? Est-ce que ça représente vraiment deux modèles radicalement différents? Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, de quoi sont faits ces deux modèles?
Bien sûr, on est vraiment différent d'Al Jazeera. Al Arabiya a toujours adopté une ligne éditoriale modérée, ouverte. On a plus de business, on a plus d'affaires, on a une audience différente. On est moins populiste, mais je dirais aussi qu'on ne montre pas, depuis la création d'Al Arabiya, on ne montre pas des corps décapités, pas d'exagération, pas de distorsion des nouvelles.
Vous donnez la parole aux terroristes, aux groupes terroristes.
On tâche de ne couvrir de leurs histoires que ce qui est vraiment, qui appartient aux nouvelles. On sait que la manipulation des médias et des nouveaux médias fait partie intégrale de la stratégie des groupes terroristes. Donc on a, depuis l'ascension d'Al-Qaïda jusqu'à nos jours avec ce qu'on appelle l'État islamique, on veut être une voie de raison, une voie de modération.
Plus des news que des points de vue.
Absolument, plus de news que des views.
C'est aussi deux modèles politiques qui s'opposent, non ?
D'ailleurs, le Qatar versus l'Arabie Saoudite, notamment.
Je dirais deux lignes éditoriales vraiment différentes. Ce que vous voyez à l'écran est totalement différent. Vous regardez à l'Arabiya, c'est plus jeune, c'est plus rapide, c'est plus. Il y a plus de drames. Ce qu'on a, c'est un fond nouveau, un traitement des nouvelles plus rapide. Et on a plus de business durant la journée. Tous les décideurs d'affaires regardent Al Arabiya durant la journée, les stocks, les affaires. Donc c'est plus moderne, c'est plus
autant,
libéral.
Et pour autant, Al Jazeera, c'est peut-être la chaîne qui est quand même la plus connue.
C'est une grande marque, brand, c'est une grande marque dans le monde. Mais il y a des façons pour bâtir une grande marque. On n'a pas voulu bâtir une grande marque en montrant les videotapes de Osama Bin Laden dans le temps. C'est un choix qu'on avait pris. Donc oui, on peut faire une notoriété mondiale, mais ça a un prix. Comme on peut vraiment avoir une audience régionale et être leader dans plusieurs pays. Contre notre...
Alors on dit parfois que Al Arabiya est une chaîne moins islamiste par rapport à Al Jazeera qui serait la chaîne plus proche, dit-on souvent, parfois, des frères musulmans, bien que ça dépende des pays et des périodes. Mais est-ce que c'est moins islamiste ou est-ce que c'est un autre islam ?
C'est un autre islam. C'est un islam ouvert. C'est un islam modéré. C'est un islam moderne. C'est comme ça ressemble un peu à notre idée de l'islam que Dubaï représente aujourd'hui.
Dubaï plutôt que l'Arabie Saoudite.
Je dirais que la région du Golfe représente aujourd'hui
l'islam modéré, ouvert. C'est ça que vous voulez dire?
Je dirais l'islam qui n'est pas militantiste, qui ne fait pas des décapitations de têtes.
On peut ne pas décapiter, mais on peut faire la guerre quand même.
Oui, mais on a essayé tous dans notre région la route de la guerre, de la haine, du désespoir. Je pense qu'on a le droit et l'obligation dans les médias d'essayer de montrer à notre audience une route d'espoir, de joie, de musique, d'entertainment. C'est ce qu'on fait dans notre groupe médiatique.
Est-ce que c'est le rôle de l'information? Est-ce que l'information ne doit pas respecter une forme de neutralité? Là, vous nous décrivez quand même, malgré tout, une chaîne engagée politiquement.
On est engagé. Je ne dirais pas politiquement. On est engagé
Dans un combat de valeurs.
Dans un combat de valeurs entre le bien et le mal, c'est clair.
Ça, tout le monde. Mais c'est très rare, les chiens qui défendent le mal par définition, non ?
Non, mais c'est clair.
C'est une nouvelle.
Je ne veux pas paraître comme George W. Bush, mais mais c'est pas une guerre des idées. Mais je dirais, dans la région, ce qui hante notre jeunesse, qui représente 180 millions de personnes dans le monde arabe,
c'est-à-dire une très importante part de la population.
Exactement, plus que 60 dans une région où on a 180 millions de jeunes, nous avons un challenge. Qu'est-ce qu'on veut de cette région dans 10 ans ? Est-ce qu'on veut que ça soit une source d'espoir, d'esprit positif, de bâtir un futur ? Ou est-ce qu'on envoie toute cette jeunesse vers l'extrémisme et le terrorisme ? Et bien sûr qu'il faut être engagé.
Alors, MBC a été et a commencé son succès comme groupe panarabe, donc au fond, grâce à l'épopée, on pourrait dire, de la télévision satellitaire, on pouvait mettre d'à peu près n'importe où et être présent dans pratiquement toute la zone arabe. Et puis, cette stratégie, elle a évolué, elle a commencé à évoluer, notamment avec l'ouverture d'une chaîne spécialisée en Égypte, en l'occurrence MBC Égypte, MBC Masser. Est-ce que ça montre la fragilité d'un modèle qui serait strictement panarabe ? Est-ce que c'est la nécessité de coller à des marchés émergents au sein du monde arabe ? Et si oui, combien sont-ils ?
C'est plutôt la nécessité de grandir. C'est le growth, c'est le mandat de développement. On a atteint un degré de leadership dans le monde arabe, panarabe et golfe qu'on ne peut plus agrandir. Donc c'était un mandat pour nous de rentrer dans des marchés spécifiques et d'agrandir notre part du marché commercial, mais aussi d'audience. Et
donc, là, c'est l'Égypte, donc une chaîne égyptienne.
Deux chaînes pour l'Égypte jusqu'à maintenant. Et je vous dis que notre performance durant le Ramadan, on était la top channel, donc on était la station, la top rated channel en Égypte.
Ouais. Et donc ça vous donne des idées pour, je ne sais pas, pour le golf, pour le Maghreb notamment, l'ouverture d'une chaîne au Levant par exemple.
Ça nous donne beaucoup d'idées et on est en train d'étudier plusieurs projets. Je pense qu'on aura de nouvelles chaînes à annoncer bientôt, je dirais au début de 2015.
Quoi, une chaîne en Irak, une chaîne en Algérie, une chaîne en Égypte, de plus, une chaîne dans le Golfe ?
Je dirais rien d'impossible dans notre jargon.
Mais tout
dans
ça est possible, Ania Chevaux.
Comment ça se passe justement quand on s'implante dans un pays où il y a un régime qui ne respecte pas vraiment la liberté d'informer ? C'est quand même le cas de l'Égypte. On l'a vu notamment avec des journalistes condamnés, emprisonnés d'Al-Jazeera. Quel est votre position sur ce sujet ?
Je vais parler de ma position personnelle pour un peu distinguer mon rôle comme porte-parole et comme moi-même. Moi, personnellement, dans l'absolu, je suis un défenseur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. En même temps, il y a le respect de la loi. Et
en l'occurrence, de la loi égyptienne ?
De la loi égyptienne. Et aussi, il est important que le système judiciaire fonctionne d'une façon convenable dans un pays.
Donc ça, c'est une réponse diplomatique.
Donc, pour moi, tout ça, il faut mettre tout ça sur la table et voir, je ne suis pas au courant des détails.
Il y a quand même des journalistes qui défendaient, c'est vrai, certes, compris des positions, certes, en faveur des frères musulmans, mais condamnés à 7 ou 10 ans d'emprisonnement. Ça paraît complètement démentiel, non ?
Évidemment, et c'est ce que j'ai dit, je me porte solidaire avec tout journaliste dans le monde entier qui est en prison pour avoir dit ou écrit ou publié. Mais je ne suis pas au courant de ce volet en détail, mais je dis qu'il y a les composants de la liberté de la presse et du respect de la loi et du système judiciaire qui vont ensemble. This is why, this is why, this is why I'm hot.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
جاي من غزة؟
اليوم وصلت.
الحمد لله على السلامة.
كم يوم خذلك؟
اليومين تقريبا.
لغاية ما وصلت؟
لحد ما وصلت أيوة.
ليه؟ يومين؟
في شوية مشاكل يعني على المعبر وهيك.
بنحييك ونرحب فيك.
الله يخليك يا رب.
وش راح تغنينا؟
صفيني مرة وقفيني مرة صفيني مرة وقفيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة صفيني مرة وجافيني مرة.
Alors à l'instant, à nouveau, le jeune chanteur palestinien de Gaza, Mohamed Assaf, 25 ans, qui a gagné l'an dernier l'Arab Idol. C'était, c'est un des plus grands succès pour NBC. Combien de millions de téléspectateurs ?
La finale de Arab Idol saison 2 a été suivie par plus de 100 millions de téléspectateurs. C'est l'histoire humaine de Mohamed Assaf qui a bouleversé les gens. Toute la jeunesse arabe s'est identifiée à Mohamed Assaf.
Pourquoi ?
Et à cause de la souffrance immense que ce jeune Palestinien a dû
Il vient d'où précisément
à Gaza ? Il vient de Gaza. Il a été dans un camp toute sa vie.
Donc il a grandi dans le camp de Rafah.
Ouais. Il n'avait même pas le courage de rêver de pouvoir réaliser quelque chose dans sa vie. Et soudainement, toutes les portes s'ouvrent devant lui. Dans le meilleur des cas, il aurait pu être chanteur dans des mariages ou autres à Gaza. Et soudainement, toutes les portes du monde et du monde arabe, soudainement,
et double ambassadeur. Et les portes sont ouvertes doucement, puisqu'on a même refusé sa sortie de Gaza. Il est arrivé en retard, dit-on, à la fameuse audition qui avait lieu. Donc c'est une sorte de quoi ? De Palestinian dream, on pourrait dire ?
C'est un grand Palestinian dream. Je dirais que c'est un Arab dream. C'est un grand rêve arabe pour les jeunes, pour ces 180 millions de jeunes arabes qui n'ont pas de jobs, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas un espoir de réaliser quelque chose dans leur vie. Ils voient en Mohamed Assaf ce never surrender, de ne jamais dire haut les mains. Et c'est un exemple de jeunesse, de défi, de courage, de d'espoir et le droit des peuples à s'autodéterminer.
Alors il ne dit pas haut les mains, mais il dit levons, gardons, brandissons notre kéfier. On l'écoute d'ailleurs là dans la chanson célèbre qu'il a rendue célèbre. On l'entend là à l'instant en chantant donc porte haut ton kéfier, brandis ton kéfier, qui est un hommage évidemment à peine voilé, si on peut dire, au kéfier de Yasser Arafat. Très anti-Hamas, plutôt proche du Fatah sans doute, en tout cas mal vu à Gaza, mais quand il est revenu, ce fut sans doute un des plus grands événements comme Gaza n'avait pas connu depuis le retour à Gaza de Yasser Arafat justement.
Absolument, une grande fête, un mariage, tout le monde était content, c'était une fierté nationale. Finalement, Mohamed Assaf est devenu ambassadeur pour l'État palestinien, mais aussi pour l'UNRWA.
C'est-à-dire l'agence des réfugiés palestiniens, des réfugiés de l'ONU.
Mohamed Assaf n'est pas un politicien. Et il m'en a toujours dit, il l'a dit aux médias, ce qu'il exprime, c'est ce qu'il a vu avec ses yeux depuis qu'il était gosse. Il n'a jamais vécu sur la pelouse verte, ni ayant eu quelque chose de facile dans sa vie. Il a exprimé la souffrance immense qu'il a vécue comme un jeune Palestinien, comme tout autre Palestinien. Donc il n'a pas d'agenda politique et c'est un homme qui aime la paix, qui aime les autres. Et
il faudrait faire un film. Vous ne pensez pas faire un film sur sa vie ?
On espère pouvoir faire un film, je dirais, un Slumdog millionnaire
arabe.
J'espère pouvoir faire
comme
ça.
Comme vous êtes habitué au cinéma de Bollywood, vous savez oui, déjà un exactement. Peu comment ça marche. La saison 3 de Arab Idol est en cours. La finale aura lieu les 12 et 13 décembre à Beyrouth. Pourquoi ne pas utiliser, le faire venir ? On ne l'a pas vu depuis un moment. Il s'était tu, il avait mis sa carrière entre parenthèses lors de la guerre cet été de Gaza.
Oui, c'était compréhensif. La voix ne sortait pas de sa gorge. Il m'en avait parlé. Il me dit « je ne peux pas chanter quand ma ville et mon pays sont bombardés ». Assaf sera, Idol Assaf sera avec nous à Beyrouth le samedi prochain, le 18, je crois. Il sera cette fois pas en tant que candidat, mais en tant que guest, star guest, donc reçu.
Dans l'une des pré-finales de Arab Idol.
Une des pré-finales de Arab Idol.
Il va donc réapparaître le 18 octobre prochain.
Oui.
Dans ce cas de Arab Idol, on peut prendre d'autres exemples. Vous avez cité The Voice, Arab's Got Talent, prochainement The X Factor ou Project Runway. C'est des formats souvent américains ou européens que vous rachetez pour des audiences arabes qui en sont friandes ?
Absolument, qui sont très, très, très suivies. Mais c'est des formats qui ont le IP, l'Intellectual Property Right mondial, mais qui sont faits par des Arabes, pour des Arabes, avec des jurys arabes, des candidats arabes. Et le son, la lumière, toute la technologie est faite par un cadre arabe. Donc, ça vient avec beaucoup de best practices. Donc, notre cadre arabe apprend beaucoup en faisant ces formats mondiaux. Et l'audience aime beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle les talent shows, donc les programmes de talent, sont des plateformes de self-expression. Donc, c'est des plateformes d'expression artistique, je dirais, de la jeunesse arabe. C'est pour ça que tout le monde s'y attache.
Alors, c'est ce phénomène, on l'a vu pour Arab Idol, pour Mohamed Assaf, etc. C'est aussi un phénomène sur les réseaux sociaux. Vous avez une présence assez forte sur Facebook, Twitter, etc.
Oui, et en effet, nous avons 12 millions de visiteurs uniques nous avions durant le Ramadan sur Shahed, notre vidéo on demand, mais je dirais notre empreinte digitale sur les réseaux sociaux. Notre présence atteint aujourd'hui 135 millions de personnes. Je parle de 95 millions de Facebook, de 24,6 millions sur Twitter, de 7,4 millions sur Google+. Donc on essaye d'avoir le même genre de leadership arabe.
Alors, dans toutes ces émissions, dans vos programmes qui sont repris, diffusés, commentés, au fond, développés sur Facebook, Twitter, etc., il y en a un qui était particulièrement célèbre aussi, puisque c'est un format que vous avez racheté, un format qui était chez CBC à l'époque en Égypte, racheté par NBC Masser en Égypte. En Égypte, Tania Chevaux ?
Oui, c'est celui de Bassem Youssef. Alors, on vient de vous entendre, vous êtes particulièrement sensible à l'audience, ce qui paraît légitime quand
mais
on
aussi à la liberté d'expression, il l'a dit.
Et c'est vrai que le show de Bassem Youssef était un show extrêmement populaire en Égypte, mais même au-delà de l'Égypte.
Satirique, il faut rappeler.
Dans tout le monde arabe. Et l'émission s'est arrêtée brutalement sur NBC. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une censure politique ?
Bassem était le Jon Stewart du monde arabe. C'est un ami à moi personnellement que j'admire, que je respecte et que je soutiens ouvertement. Je ne vais pas me prononcer, permettez-moi de ne pas me prononcer sur les raisons pour lesquelles programme de Bassem Youssef Al-Bernameg n'est pas aujourd'hui sur écran. Espérons qu'un jour
Vous avez commencé cette émission en parlant des printemps arabes et justement à la recherche du printemps arabe. Est-ce que l'arrêt de Bassem Youssef, enfin l'arrêt du show de Bassem Youssef, c'est justement pas
l'hiver
un
arabe
indice,
au fond.
Un indice parmi d'autres de cette quête vers un printemps perdu?
On est comme je l'ai dit, à la recherche du printemps perdu. On passe par un hiver, comme Frédéric vient de le dire,
un peu froid,
un peu long. Froid, qui est long et qui est effrayant. Ce qui est maintenant en jeu, c'est parfois l'existence même de quelques pays dans la région qu'on connaît. C'est l'existence même de droit d'exister, des États. Donc la question est beaucoup plus loin qu'un programme de télévision. Autant que ce soit important pour nous qu'un programme comme celui de Bassem soit sur écran, s'il s'agit de l'existence même d'un pays ou d'un système ou de quelques valeurs dans un pays...
Bassem Youssef ne menaçait pas le régime en Égypte.
Mohamed,
quel soupir.
Mazen Hayek est porte-parole du groupe NBC. Vous voyez comment, au-delà des shows satiriques qui apparaissent ou disparaissent, vous voyez comment l'avenir, au fond, d'un groupe comme le vôtre, dans 10 ans, on a cité Shahid.net, votre site de vidéo à la demande, une sorte de Netflix arabe, ça veut dire regarder d'ailleurs, être le témoin en arabe, plus de 180 millions de vidéos vues, avec plus de 50 séries de télévision produites, présentées. C'est quoi NBC dans 10 ans ?
Rapidement, notre challenge, c'est de continuer d'avoir le meilleur contenu, donc content is king, contenu, d'essayer toujours d'explorer de nouvelles façons de distribution au-delà du cable et du satellite, essayer d'explorer aussi et de contempler le développement technologique et comment la technologie est en train d'affecter la façon dont les gens consomment les médias ou comment, combien de temps, etc. et quel contenu ils veulent voir. D'essayer d'inventer ce qu'on appelle en anglais le next big thing. C'est quoi le grand truc
qui arrive
avant que les autres. On avait créé les feuilletons turcs en arabe qui ont cartonné.
Les feuilletons du ramadan aussi.
Les feuilletons du ramadan également. Donc c'est toujours être en avance des attentes des
consommateurs. Et le marché, notamment publicitaire, est suffisant ? Il est évalué à combien et est-ce qu'il progresse fortement en ce moment ?
Malheureusement, le marché dans notre région arabe, le total de notre marché n'est pas plus que 2% du marché global de la pub. Je dirais.
Mais c'est quand même quelques centaines de milliards.
Non, quelques milliards.
Quelques
pas
milliards,
de centaines.
Mais.
Je dirais, au meilleur des cas, c'est un marché qui ne dépasserait pas les 4 milliards de dollars dans 21
quelques
pays.
Quelques centaines de millions, notamment, il s'est réparti comment sur Internet, ça progresse
le marché sur Internet est estimé autour aujourd'hui de 400 millions de dollars de recettes et de revenus, mais ça augmente d'année en année.
Donc, pour la télévision, on est à combien
Pour la télévision, je n'ai pas d'estimation précise, mais je dirais que la télé reste toujours la source dominante d'entertainment, de nouvelles, de sport pour les citoyens arabes, par excellence.
Donc sur les 4-5 milliards à peu près de dollars de marché publicitaire, on a 25% pour la télévision au moins.
Je dirais une estimation, oui.
Une source dominante, mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que cette jeunesse arabe qu'on dit très connectée, qu'on dit très sur les réseaux sociaux, sur YouTube, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut remettre en cause un jour la télévision telle que vous la concevez dans le groupe AMBC ?
On est en train d'expérimenter un passage télé, réseaux sociaux, driving force, c'est la télé vers les réseaux sociaux. Je dirais non, parce qu'on a beaucoup de challenges, on a la pauvreté dans notre région, la PC penetration qui est très basse, le taux des illiteracy est très haut.
D'illettrisme.
Donc tout ça, on a comme l'Égypte qui a 50% qui n'a pas d'accès sur Internet. Donc on a beaucoup de challenges pour arriver à ce que les nouveaux médias prennent le dessus sur la télé.
On en reste là pour ce soir. Merci Mazen Hayek, porte-parole du groupe MBC. Bravo pour votre français. C'est pas
Merci.
Votre langue natale, bien que libanais. On aurait pu le faire en anglais. Je crois que c'est plus facile pour vous, mais vous avez accepté de le faire en français. Cette émission Soft Power a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, à la régie Julien Calvas. Soft Power, une émission de Frédéric Martel avec Agnès Chevaux, réalisée ce soir par Perret Legras. Merci à tous. Dans un instant, 20h. Merci, Mazen Hayek.
Merci à vous. Merci.
On retrouve Sophie Nolot pour Sarah et Makwa dans un instant. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.